France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse, peu cher, empégué, comment que c'est, pochon, berloqué, dégain, chocolatine, biloute, macarelle, pigné, des mots, des expressions en provenance de Marseille, de Toulouse, d'Alsace ou encore de Bretagne, des mots et des expressions locales encore vivaces ou en perte de vitesse, c'est la question que nous poserons, nous explorerons la richesse et la diversité de la langue française telle qu'on la parle dans nos régions, comment se parle le français quand il se frotte au breton, à l'occitan, à l'alsacien ou encore au picard. Et puis, on s'intéressera aux accents sources parfois de moquerie, de mépris social ou de snobisme. Les spécialistes appellent cela la glottophobie, une forme de discrimination liée à l'accent. Comment expliquer que la valeur d'un individu soit comptable de son accent? Élément d'explication avec nos invités linguistes. Et vous racontez-nous les mots ou expressions que vous utilisez dans votre région. 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France, en laissant message et note vocale. N'hésitez pas à nous dire également si vous avez déjà subi une discrimination à cause de votre accent. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Yo Magnac, si tu viens en Alsace, tu dois apprendre quelques petits mots de base. Donc c'est parti pour une petite liste.
Tu peux me passer mes chlopas, s'il te plaît? Chlopas, ça veut dire pantoufle. T'es quoi?
Le fameux corps, lève la cuillère en bois.
Comment on appelle ça chez vous?
Un pain au chocolat.
Un petit pain.
Petit pain au chocolat, pas juste pain au chocolat. On bat des records.
On dit que dans le sud, on a l'accent qui chante.
Bout du con, putain con.
T'es, regarde ce livre. C'est le pompon sur la Garonne.
Fécaille, si t'es trop au pit avec ton drôle, tu vas avoir la quinte, ça va gaver d'ailleurs.
Ah, je suis empégué.
Oh, coquin.
Oh, fada.
Va compter les vagues.
Donc, au gros, on dit ça à qui?
Bah, je sais pas, n'importe qui te gonfle.
Putain, je capte pas, c'est le pompon sur la Garonne, ça,
bon. Je dis jamais ça, mais c'est très mignon.
Medley signé de la bordelaise Claire Destacan. Bonjour Médéric Gasquet-Cyrus.
Bonjour Ali, bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sociolinguistique à l'université d'Aix-Marseille, chroniqueur sur Ici Provence. Vous faites partie du collectif Les Linguistes Atterrés et vous dirigez aux éditions Le Robert une excellente collection que j'adore vraiment. Ça se dit comme ça. Alors vous avez écrit l'édition consacrée à Marseille. Médéric Gasquet-Cyrus, l'idée de cette collection, c'est de montrer la richesse, la diversité de la langue française telle qu'on la parle dans certaines grandes villes et grands bassins régionaux.
Oui, tout à fait. Le français est une langue qui est très dynamique depuis longtemps et ça continue. Et contrairement à ce que certaines personnes disent, non, il n'est pas en train de mourir, de disparaître, blablabla. Et c'est vrai que ce français-là, on avait envie de le montrer. Cette collection, c'était l'occasion, avec les éditions Le Robert, de mettre en avant cette diversité avec les mots issus des langues régionales, on va en parler, mais aussi le dynamisme, parce que ça bouge, ça change.
Bonjour Pascal Erhardt.
Bonjour Ali, bonjour Pessom.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Strasbourg, responsable du département de dialectologie alsacienne et molaisane, et vous avez écrit « En Alsace, ça se dit comme ça ». Bonjour Pierre Escudé, bienvenue.
C'est merci.
Vous êtes professeur en didactique des langues à l'université de Bordeaux et je vous pardonne, vous avez écrit le volume consacré à Toulouse. À Toulouse, ça se dit comme ça. Bonjour Alain Dawson, bienvenue.
Bonjour Ali, bonjour Terre tous.
Vous êtes docteur en sciences du langage et spécialiste du Picard et vous avez écrit « Dans le Nord et la Picardie, ça se dit comme ça ». Alors Médéric Gasquet-Cyrus, dans les médias nationaux, on entend assez peu les mots, les expressions employées spécifiquement dans telle ou telle ville ou région. Et d'ailleurs, les langues régionales ne sont pas entendues au niveau national, elles sont trop souvent cantonnées au folklore. Pourtant, le français, tel qu'on le parle partout en France, se frotte au breton, à l'occitan, au basque, au picard, à l'alsacien.
Oui, c'est vrai que le français des médias ne reflète pas la réalité des usages qu'on peut entendre au bistrot, dans les stades, dans la rue, dans les transports en commun. Et ça vient de l'histoire de la France, qui est une centralisation, en fait, qui a permis une construction et une unité nationale, une certaine unité nationale, et une unité autour de la langue française. Donc ça, ok, c'est bien, notamment la Révolution. Mais c'est vrai que ça a eu tendance à effacer un petit peu cette diversité, alors qui est là encore, qui est présente avec des langues régionales qui ne sont pas forcément parlées au quotidien, mais qui sont là, qui font partie de la culture, de la littérature parfois, des médias, et qui influencent encore les façons de parler à travers les accents, les mots, les expressions.
Pascal Erhardt, votre point de vue?
Ah oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Médéric. En fait, le français régional, c'est aussi un petit peu le thermomètre qui permet de voir à quel point ces langues locales, régionales, elles imprègnent encore la vie de tous les jours, en fait. Et il y a des marqueurs régionaux spécifiques qui fait que quand vous arrivez dans une région, vous ne comprenez pas forcément tout parce que vous ne comprenez pas, en fait, la langue locale qui imprègne le français.
Un exemple venant d'Alsace.
Ah bah, par exemple, si je vous dis « Ali, fermez la porte, ça tire », vous ne me comprendrez pas. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a un courant d'air. Et donc, dès qu'on sort d'Alsace et qu'on utilise cette expression-là, bah, c'est incompréhensible. En fait.
Votre point de vue, Pierre Escudé ?
Ben, le point de vue, c'est qu'il y a une confusion en France qui est regrettable entre l'unité et l'indivisibilité, entre la langue commune et la langue unique. Déjà en 1647, je crois, les remarques sur la langue française de Vaugelas, donc on est juste après la création de l'Académie française, faisait qu'il y avait un bon usage et un mauvais usage. Et le bon usage, c'est les gens qui sont de la cour. Alors ils sont combien ? Ils sont peut-être 1000, 2000, 3000 personnes à la cour. Et le mauvais usage, ce sont les provinciaux et les étrangers. Ils sont environ 20 millions en France à l'époque. Et le problème, c'est que les gens, ils existent. Et les gens existent avec leur vie, leur réalité, leur histoire, leur culture, leur civilisation. Ces gens-là sont français, et c'est vrai qu'ils sont exclus finalement du bon usage qui est, depuis très longtemps, resté celui de la cour et des gens qui sont de cour.
On a beaucoup parlé du bon usage, Médéric Gasquet-Cyrus.
Oui, et ça perdure. C'est entré dans les mentalités qu'il y aurait un bon français, une vraie façon de parler français. Et dès qu'on sort un petit peu de ça, alors dès qu'on fait soi-disant une faute d'orthographe, si on dit je vais chez le coiffeur, en fait, c'est pas du mauvais français. C'est un français qui est jugé socialement et ok, si vous passez l'entretien d'embauche, vaut mieux éviter. Mais c'est du français aussi. C'est pas du chinois, c'est pas du wolof, etc. Et donc cette idée-là est diffusée. Alors involontairement parfois par certains médias, par l'éducation nationale parfois, par l'Académie française volontairement, qui s'accroche à quelque chose qui, en fait, est un usage parmi d'autres, mais pas bon, pas mauvais. Si vous utilisez un imparfait du subjonctif à l'oral dans un bistrot, ça va être du mauvais français. C'est pas le bon usage, ça. C'est pas comme ça qu'on parle.
Alain Dawson.
Oui, bah, je pourrais dire la même chose que mes collègues. Hein. Effectivement, dans le Nord, bon, et, on le sait, il y a un accent particulier, et puis on utilise des mots, on utilise des expressions, des tournures qui ne sont pas totalement reconnues par l'Académie française, je dirais. Mais bien sûr que c'est du français. C'est du français autant que le français qu'on parle à Paris ou à Marseille ou à Toulouse ou en Alsace, bien sûr. Hein.
Alors, Médéric Gasquet-Cyrus, commençons avec le parler marseillais. Il s'agit d'une variété de français nés au 19e siècle.
Merci de commencer par le Marseillais, jamais les premiers. Je dis ça au cas où Paris gagne des champions, on sera tranquille. Ouais, c'est né au 19e avec les contacts donc entre une population dans le milieu populaire qui est obligée de passer au français parce qu'il n'y a plus le choix, la révolution est passée par là, l'industrialisation, etc. Et ces gens parlent le provençal comme langue première. Et donc, ils font ce que font les Français aujourd'hui quand ils parlent anglais. Vous savez que quand un Français parle anglais, il a tendance à se faire repérer très vite. Hein. I am very happy to be here. C'est bon, oh, you're French, ok, c'est bon. Ben, c'est ça. Et l'accent, ça va être le transfert en français de traits du provençal, de l'occitan et de manière générale. Donc, ça va être des phénomènes de prononciation, l'accent tonique, ça va être des mots, des expressions, de la syntaxe aussi. Et donc, ça perdure.
Un parler marseillais qui varie évidemment selon les milieux, les quartiers, les générations ou les classes sociales.
Ouais, c'est ça qui est fascinant et c'est dès le départ aussi que ça varie comme ça. À Marseille, on a selon les façons de parler, selon les moments, on peut employer tel ou tel mot. Il y a des mots qui sont employés par tout le monde et puis après, voire plus populaire, plus gras, comme on dit, on appelle ça le parler gras. Et la stratification sociale en fait est passionnante parce que ça nous dit des choses sur la société.
On va y revenir tout à l'heure. Les Marseillais revendiquent leur parler de façon très chauvine. Et vous rappelez une chose très importante, le parler marseillais n'est ni un argot, ni un mauvais français. C'est du français, tout simplement.
Et tout ça, c'est du français. C'est-à-dire que le français qu'on parle à Tahiti, qu'on parle en Guyane, qu'on parle à La Réunion, qu'on parle au Québec, qu'on parle à Moncton, qu'on parle à Bruxelles, qu'on parle à Alger, etc., c'est du français. La langue française n'est pas le français de France et des variétés exotiques. Parfois, on dit nos cousins québécois, nos amis belges. Non, c'est ça le français. Le français n'existe pas autrement qu'à travers cette diversité.
Pierre Escudé, à Toulouse, revendique-t-on un parler toulousain ou même à Bordeaux, puisque vous enseignez à Bordeaux, un parler toulousain, un parler bordelais, à la manière des Marseillais ?
Ben, il y a ce qu'on appelle en linguistique à la fois l'esprit de clocher, donc on est d'une ville, on porte un maillot, on est d'un quartier, on est d'une société précise, et puis il y a ce que les linguistes appellent la force d'intercours, c'est-à-dire la capacité de communiquer, de se faire connaître, de se comprendre entre nous. Et l'intérêt du français, comme de toute langue, c'est tout à la fois de permettre une communication la plus globale possible, la plus commune, et à la fois d'avoir des traits qui vont spécifier, qui vont identifier d'où on parle et à qui on parle. C'est ce qu'on appelle des registres de langue. Après, ce que dit Médéric est formidable, c'est-à-dire en fait que qu'on soit à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, et même on pourrait étendre cette longue ligne et en faire un gigantesque rectangle qui sera en fait le sud de la France, c'est de l'Occitan. Et cet Occitan, en fait, qui a entre guillemets disparu, il réapparaît par pointe, par l'accent, par des mots qui sont eux-mêmes tous, pour beaucoup, venus de l'Occitan, qui se sont francisés, et qui pour beaucoup sont rentrés dans le vocabulaire du français.
Et vous avez raison, le point commun des parlers du sud de la Loire, c'est qu'ils sont issus de la langue d'oc, en opposition à la langue d'oïle. Rappelez-nous cette opposition, Pierre Escudé.
Ben, c'est pas du tout une opposition.
Non, c'est pas une opposition. C'est une complémentarité.
C'est juste une description. Je crois que c'est en 1305 que Dante est le grand auteur italien, hein, qui va être le maître de la littérature européenne nouvelle. Dit en fait qu'en Europe occidentale, il y a trois grandes plaques linguistiques et de civilisation, la lingua des si, on va dire que c'est l'Italie, la lingua des oi, c'est-à-dire le nord de la Loire, et la lingua des os, c'est-à-dire le sud de la Loire. C'est trois façons de dire oui dans ces trois langues. Et au 19e siècle, on a commencé à penser à faire une instruction nationale pour souder les Français, les faire rentrer en France. Il y a eu une première enquête, elle date de 1863, c'était le ministre de l'Éducation Victor Duruy qui fait faire une enquête dans tous les départements, et les préfets font des enquêtes en fait sur les enfants de 7 à 13 ans pour savoir leur capacité à comprendre et à écrire en langue française. Et quand on voit la carte, on s'aperçoit en fait qu'il y a toutes les marges sont en noir. Et en noir, c'est-à-dire on verra la Bretagne, on verra... Le tout nord, en fait, le nord Pas-de-Calais, on verra les départements alémaniques, Alsace, Lorraine, on verra surtout tout le Grand Sud qui protège, entre guillemets, la zone basque, la zone catalane et la zone corse. Donc voilà, en fait, ce français, c'est une... La pointe est à Paris, et puis quand on écarte le compas, on va vers les zones à coloniser, entre guillemets, ça ira jusqu'à Tamandracet à un moment, mais ces zones-là sont gigantesques et montrent, en fait, qu'il y a une réalité linguistique, culturelle, sociale qui existe. Et encore une fois, une unité politique ou territoriale existe, sans pour autant qu'il y ait une invisibilisation de ces diversités qui sont autant de richesses. Si on ne reconnaît pas les richesses de la France, les richesses internes à la France, comment la France pourrait-elle reconnaître après les diversités qui peuvent provenir de l'extérieur et qui sont désormais chez nous? Et c'est un problème politique sûrement important à résoudre et à gérer.
Pascal Erhardt, sur la vivacité du parler alsacien sur ces territoires.
Alors, par rapport aux autres régions qui sont concernées par la collection, l'Alsace se distingue un petit peu parce que l'Alsace a été francisée beaucoup plus tardivement que les autres régions. C'est la première différence. Donc la société a été francisée en fait vraiment, réellement, après la Seconde Guerre mondiale. En fait, hein. C'est vraiment là que les gens se sont mis à parler le français au quotidien, et dans cette société, il y avait encore plein de gens qui ne savaient pas parler le français. Hein. Donc forcément, les contacts entre le français et l'alsacien sont très forts. Et la deuxième différence, pour tout ce qui est relatif aux questions d'accent et potentiellement de glottophobie, c'est que l'alsacien, c'est une langue germanique. Et donc l'accent qu'on a dans le français parlé en Alsace, c'est un accent germanique qui fait l'objet, qui a fait longtemps l'objet de moqueries, de stigmatisation, et un des buts de cette collection aussi, et tu me corrigeras Médéric, mais c'est aussi de montrer que non, c'est pas grave, on parle comme ça. Cette collection, elle se distingue de ce qu'on a eu en Alsace, il faut parler correctement, il faut prononcer correctement, c'est pas ça. C'est justement, en Alsace, on parle comme ça et on vous explique pourquoi.
Et on reviendra tout à l'heure sur la question des accents. Même question, Alain Dawson, sur la vivacité du parler picard, du parler nordiste sur ces territoires.
Oui, alors le parler picard, effectivement, qu'on parle aussi, là, Pierre Escudé parlait de la distinction entre Oc et O'Hill, et le picard est une variété des langues d'O'Hill. Je rappellerai qu'on a aussi chez nous le flamand occidental, hein, qui est une langue germanique, hein, comme ce qu'on parle en Alsace. Donc ces deux langues sont toujours bien présentes, le picard, je dirais, géographiquement surtout, hein, puisqu'il couvre à peu près la totalité de la région Hauts-de-France et déborde un peu sur la Belgique. Et puis le flamand se parle toujours sur l'arrondissement de Dunkerque. Donc ces deux langues sont toujours très vivaces, elles sont toujours en arrière-plan, hein. C'est elles, entre autres, qui expliquent les particularités du français régional tel qu'on le parle dans le nord et la Picardie.
Bonjour Jean-Laurent Casselli.
Bonjour Ali.
Marseillais pur souche qui a perdu son accent, essayiste. On vous doit la France sous nos yeux avec Jérôme Fourquet. Vous avez fondé le cabinet de tendance Maison Casselli. Au programme de votre chronique, les Français mode d'emploi vers 11h-20.
Alors on entend depuis le début de cette émission que la France est diverse culturellement, mais pour bien représenter les Français, il faut avoir les bons capteurs, les bonnes antennes, les bons radars. Je vais me demander si ces antennes ne sont pas un peu encrassées.
Et dans un instant, on s'intéresse aux accents régionaux et à ce que les spécialistes appellent la glottophobie, cette discrimination liée à l'accent. Tiens, sachez que notre excellent camarade Nicolas Stoufflet sort un cahier de vacances pour adultes, le jeu des 1000 euros, 200 jeux pour se cultiver avec des quiz, des jeux, des devinettes et des infos insolite.
Bon, votre fils est confus, hein, ce qui est normal à 48 heures de traumatisme.
Ma tata,
on va de juice. Oh, je suis content de te dire.
Ah, je sais pas ce que j'ai, je suis mou comme une chic. Hein.
Vous voyez, il ne s'exprime pas encore bien normalement. Mais ne vous inquiétez pas.
Mais c'est qui, Boubourge, qui parle pas normalement avec ton accent parigo, là? Tête de veau.
Ah, d'accord.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et on s'intéresse ce matin au français tel qu'on le parle à Toulouse, Marseille, Lille, Brest ou Strasbourg à l'occasion de la sortie de la collection « Ça se dit comme ça » aux éditions Le Robert. Alors Pascal Erhardt, le français que l'on parle en Alsace, porte les traces de l'histoire singulière de cette région.
Oui, effectivement, parce que l'Alsace, elle est comme la Suisse, comme le Luxembourg, elle est un territoire qui est situé dans la zone de transition entre l'ère de langue romane et de langue germanique, et puis elle a été longtemps un objet de convoitise des États qui commençaient à se construire autour d'elle. Et l'Alsace est devenue française pour la première fois seulement au XVIIe siècle, en fait. Et donc, pendant très longtemps, ce sont des parlers de langue germanique qui se sont maintenus dans cette région. Et les contacts avec le français sont nombreux, notamment dans les formules de civilité. Par exemple, mon premier cours d'alsacien, c'est « bonjour », ça se dit « bonjour », »,« au revoir », ça se dit « au revoir », et « merci », ça se dit « merci ». Et ça, c'est très, très vieux. Par contre, dans la vie quotidienne, c'est bien l'alsacien, donc un ensemble de parlers dialectaux alémaniques, franciques, qui varie beaucoup en plus, qui est resté la langue de sociabilité, mais vraiment jusque dans les années 60. Et du coup, c'est ces variétés qui imprègnent le français encore aujourd'hui, de sorte qu'il y a des gens qui grandissent en Alsace sans parler l'alsacien, mais qui utilisent des termes alsaciens ou des expressions alsaciennes sans le savoir.
Et oui, dans votre livre, vous avez retenu les mots les plus courants et partagés, surtout par les personnes qui ne parlent pas alsacien.
Oui, voilà. Par exemple, en Alsace, quand on éternue, on dit « Gesundheit ». Et en fait, tout le monde sait ce que ça veut dire, mais ça ne vient pas forcément.
Dis pas « Tchoum ».
Non, on peut aussi dire « à vos souhaits », mais oui. « Gesundheit », c'est vraiment spontané. Moi, je le dis tout le temps. Et c'est vrai que je ne réfléchis pas, en fait, parce que c'est simplement un réflexe de politesse. Mais il y a plein de termes comme ça, des expressions qui sont calquées de l'alsacien et qui imprègnent le français.
Alain Dawson, ce qui singularise le français du Nord, du Pas-de-Calais et de la Picardie, ce sont certains traits de prononciation, de morphologie et de syntaxe avec un vocabulaire particulier.
Oui, c'est ça. Il y a à la fois, alors c'est toujours sous l'influence du Picard et aussi du flamand, hein. C'est à la fois une prononciation particulière, oui, effectivement. On peut citer, vous avez passé un extrait tout à l'heure d'un film de Danny Boone et une des blagues de Danny Boone, c'est son « un », hein, le fameux « un ». Qui se traduit par pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question, mais en même temps c'est un trait de prononciation avec une fermeture particulière du son par rapport au français un qui est beaucoup plus fermé. Voilà, on a des constructions, hein, là par exemple j'ai acheté un sandwich pour moi manger ce midi, hein, ce pour moi manger, c'est une particularité pas seulement du Nord mais ça on l'entend beaucoup dans le Nord. Et puis évidemment donc tout ce vocabulaire, hein, qu'on hérite du Picard et du Flamand. Alors avec ma co-autrice Lyudmila Smirnova, on en a relevé pas mal, hein, la drache que tout le monde connaît, oui. Hein, la drache c'est vraiment la grosse averse, mais rassurez-vous, il y en a de moins en moins dans le Nord grâce au changement climatique.
Le moins est signé Médéric Gasquet-Cyrus, hein.
Ouais, je m'en doutais, il y a des draches aussi à Marseille maintenant, je voudrais le dire quand
Alain
même.
Dawson, il y a des mots et expressions utilisés dans le Nord ou la Picardie qui n'ont rien à voir avec le Picard ou le flamand occidental, hein.
Oui, tout à fait. Il y a aussi des expressions qui sont parfaitement françaises, je dirais. Par exemple, chez nous, on va couramment faire les carreaux. Mm-hmm. Alors, dans d'autres régions, on dit plutôt qu'on va nettoyer les vitres. Hein. Se faire les carreaux, on l'entend surtout dans le Nord. Dans les petites phrases que vous avez diffusées en introduction, j'entendais quelqu'un parler du petit pain au chocolat. Mm-hmm. Hein, le petit pain au chocolat, ça, c'est vraiment typique du Nord. Du Nord, du Pas-de-Calais et de la Picardie, puisque ailleurs on dit simplement un pain au chocolat, hein, il n'est pas petit, et puis bien sûr la chocolatine.
Bah oui, on dit chocolatine, je suis désolé.
D'autres régions connaissent.
C'est le vrai mot, c'est chocolatine, n'est-ce pas, Pierre Escudé?
Évidemment. Alors il y a même des individus qui pensent que ça vient de l'anglais, chocolate in. Il faut vraiment être tordu pour penser ça. Non, la chocolatine, c'est vraiment le marqueur. Alors désormais, il y a des gens qui ont des t-shirts chocolatine. Ici, on dit chocolatine, boudu, etc. Et ça devient maintenant un marqueur un peu
identitaire.
Un peu classe, hein, voilà, de identitaire. Voilà, bon.
Jean-Laurent Casselli.
Ouais, une question pour Médéric. On vit dans une France mobile, hein. Les Français voyagent, il arrive même qu'ils déménagent, ils sont de plus en plus nombreux à le faire, souvent avant même l'âge de la retraite. Et on sait qu'à Marseille, hein, beaucoup de gens du Nord, beaucoup de Parisiens sont venus, certains diraient même trop. En tout cas, ça a une influence sur la vie quotidienne. Et notamment, vous avez bossé là-dessus, Médéric, ça a eu une influence sur les accents, sur l'accent marseillais.
Tout à fait, on étudie ça depuis quelques années parce que effectivement, c'est du contact. Comme on a du contact entre langues, on a du contact entre variétés. Les gens qui viennent, qui sont mobiles, ont eu de mobilité avant. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont souvent perdu ou jamais eu leur accent régional. Et c'est pas grave, on a le droit d'être de quelque part sans avoir l'accent du coin. Ça, c'est pas un problème. Et donc, ces personnes arrivent avec un français qu'on appelle, nous les linguistes, nivelé, c'est-à-dire qui est à peu près commun partout, et se frottent, et c'est vraiment du contact à une variété où parfois des gens vont dire le pain, vont dire la rose, vont dire la chose, vont dire tarpin, etc. Et donc, on observe ce qui se passe. Est-ce que d'un côté, ce qu'on appelle parfois les néo-marseillais, à discuter si c'est une vraie catégorie ou pas. Est-ce qu'ils vont prendre des traits locaux? Et parfois ils le font parce qu'ils veulent s'adapter, parce que parfois ils adorent Marseille, ils veulent s'intégrer. Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que des gens dans leur bureau, dans leur service, lorsqu'ils sont entourés de 2-3 personnes qui viennent de Rouen, de Paris, de Nantes, etc., vont avoir tendance à moins employer leur accent et des mots parce que ces personnes, et j'ai des témoignages là-dessus, ne sont pas comprises. Et donc ces phénomènes-là sont très subtils et sont en train de se jouer à Marseille en ce moment.
Et il ne faut pas oublier que les accents partout dans notre pays portent la trace, hein, des langues autrefois parlées comme le provençal, le corse, le basque, l'alsacien ou le breton, c'est ce qui explique évidemment la diversité de nos accents. Ces langues régionales qui laissent des traces également dans les intonations.
Oui, tout à fait, parce que ce qu'on appelle l'accent, c'est un phénomène notamment d'intonation. Et si on dit « je vais manger un bon aioli » à Marseille, on pourrait dire « je vais manger un aioli », on a le droit, hein, de le dire à Marseille aussi. Mais l'aioli ou « se sauter un bon appétit », ça marque vraiment cette influence à la fois du provençal et de l'italien, parce qu'à Marseille, il y a eu beaucoup, alors, des Italiens au sens large, mais surtout des Napolitains et des Siciliens et des Piémontais, et l'accent tonique, qui était déjà en provençal, s'est renforcé. Donc l'accent tonique, ça marche pour plein de mots. Si vous allez à Marseille et que vous cherchez le quartier de Montpanty, vous ne trouverez jamais. Si vous dites « je cherche même Penti », on va vous indiquer la route.
Sur l'accent alsacien, Pascal Erard.
Oh bah alors là, évidemment, en Alsace, on a certaines personnes qui ont été traumatisées, hein, parce qu'on les a repris, parce que justement, cet accent, il a le malheur d'être en plus germanique, donc quand on dit « je vais à la maison », bah forcément, je veux boire une pierre. C'est très difficile, hein, parce que dans le système phonologique de l'alsacien, il y a une très grande proximité entre le « pe » et le « be » et le « te » et le « te ». C'est très difficile pour un Alsacien de faire... Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui n'a pas grandi en même temps avec le français, c'est très difficile de faire la différence entre la pierre et la bière. Moi, l'exemple que j'adore aussi, c'est celui de la courgette, parce que le « que » et le « gue » se confondent et le « je » n'est pas un son disponible dans le système phonologique alsacien. Et donc, en Alsace, les gens, ils n'ont pas des courgettes, ils ont des courchettes. Et on continue de le prononcer comme ça, même si on sait très bien que c'est la courgette en français standard, mais parce que tout le monde dit ça comme ça, et c'est pas grave. C'est normal. Mais oui, ça fait partie de ces effets.
Médéric Gasquet-Cyrus, sur l'accent marseillais, il existe 3 accents principaux, c'est ça ?
Oui, disons qu'on peut distinguer un accent très populaire et, on va dire, plus traditionnel, ancien, on va dire. C'est ce que les gens appellent l'accent de Pagnol, l'accent un peu bien marqué par le provençal. On va avoir un accent dit des quartiers nord, des jeunes, et qui est en fait un accent...
Des quartiers populaires.
Ouais, des quartiers populaires, qui est beaucoup plus répandu, en fait, maintenant, qu'on trouve en centre-ville, etc., qui va être plus marqué par des contacts avec d'autres langues. Et puis, on a un français de Marseille qui est bourgeois, qu'on peut reconnaître aussi, avec des gens qui sont entre... Je montre que je suis de Marseille, Marseille, mais pas trop quand même, j'ouvre pas trop la bouche.
Voilà. C'est-à-dire qu'on y retrouve dans cet accent un peu bourgeois, marseillais, une mélodie provençale, tout en évitant des traits considérés comme trop populaire.
Tout à fait, Alice. C'est ce qu'on appelle l'accent jambon, n'est-ce pas, sur France Inter, c'est très charmant, cette émission est charmante. Oui, c'est distingué, je n'ouvre pas trop la bouche. Je suis de Marseille, j'aime cette ville, mais n'en faisons pas trop quand même.
Alors, parfois, dans l'accent marseillais, on retrouve ce que les linguistes appellent de façon savante une affrication, patalisation. Alors, je le précise, affrication n'a strictement rien à voir avec l'Afrique. Hein.
Et oui, contrairement à ce que certains racistes avaient cru, et tant pis pour eux. Effectivement, l'affrication, c'est un phénomène alors qu'on trouve dans plein de langues, en ancien français aussi, c'est le fait de prononcer te et de avec des formes comme tche ou je devant certaines voyelles. Donc, tu es parti avec la voiture. C'est tout à fait normal à Marseille, on l'entend de plus en plus, dans des milieux sociaux de plus en plus élevés. Ce qui était très stigmatisé il y a une trentaine d'années, où on disait ça c'est l'accent quartier nord, ça c'est l'accent des jeunes, c'est pourri, etc. On l'entend dans des boutiques aujourd'hui maintenant. Et je pense que c'est une tendance potentielle du français de demain. Et on le trouve dans d'autres villes hein, aussi.
D'ailleurs, Médéric, vous donniez l'exemple de Mapinty, le quartier marseillais, mais il y a aussi le quartier de la Valentine.
Exactement.
On sait la Valentine, voilà, qui est un marqueur marseillais.
Et Martigues à côté.
Un bel exemple d'Afrique. La particularité de l'accent marseillais, c'est qu'il est rythmé par un accent tonique. Rappelez-nous ce qu'est l'accent tonique, Médéric Gasquet-Cyrus.
Bah, c'est un peu ce qu'on disait quand on dit la yoli, quand on dit même penti, on a tendance à accentuer l'avant-dernière syllabe. Et si on ne le fait pas, on risque de se faire remarquer comme n'étant pas du coin. Voilà.
L'accent de la télé ne signifie rien. Imposé par les infos, il déteigne. Tous les pébrons prennent le sien. Oublie le leur, est-ce que ça te convient? Complètement aliéné soudain. Face au micro, alors il n'y a plus rien. Peur de l'accent qui vient d'où tu viens. Et pourtant, il t'appartient. Le tien, c'est le tien. Et le mien, c'est le mien. L'accent.
L'accent chanté par les Fabulous Troubadours. Pierre Escudé, quelle est la particularité de l'accent toulousain par rapport à d'autres accents méridionaux?
C'est ce qu'on appelle l'accent toulousain, c'est l'accent d'environ une quinzaine de départements autour de Toulouse, hein. C'est assez large. Quand Cabrel dit « Petite Marie, je parle de toi », il ne dit pas « Petite Marie, je parle de toi ». Donc il s'agit en fait de prononcer toutes les syllabes, il s'agit d'avoir cet accent sur l'avant-dernière syllabe lorsque le mot est entre guillemets féminin, et l'accent tonique sur la dernière syllabe lorsque le mot est entre guillemets masculin. Donc on fera la différence entre Toulon et Toulouse. Moi, je me souviens lors d'un match de rugby ou de, je ne sais plus qui disait ça dans les années 90, peut-être, Pierre Salviac, je pense, qui disait qu'il y avait eu un match entre Milo et Grolet. En fait, c'est Millau et Grouillet. Donc, après, cette incapacité à connaître les choses qui sont. Qui se disent par elles-mêmes et les prononcer par un autre filtre. Et c'est vrai que l'intérêt de la collection du Robert, ça se dit comme ça, c'est que c'est le ça qui est premier et non pas la façon normative de dire les choses, mais c'est les choses telles qu'elles sont qui se disent. Et c'est tout l'intérêt en fait de cette collection.
Un exemple, Pierre Escudé, par exemple à Toulouse, on va aller boire au Zinc, ou plutôt qu'au Zinc, rue de Metz. Plutôt que rue de Metz, c'est une artère importante de Toulouse. On va dire gaz plutôt que gaz et persil plutôt que persil. Voilà quelques exemples hein, de l'accent qu'on peut retrouver à Toulouse, avec évidemment des hauts qui sont ouverts. On va prononcer rose, jaune, os. C'est aussi le cas évidemment ailleurs dans le sud de la France. Voilà quelques petites spécificités, Pierre Escudé, de cet accent toulousain.
Et je ne sais pas si en latin, il y avait un O fermé. C'est un peu la grande différence. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait de O fermé en latin. Donc le O est toujours un O ouvert. Quant à Metz, mais je crois que là, par contre, ou Persil, là, je crois que par contre, on prononce comme on lit. Hein. C'est l'orthographe, en fait, qui s'impose. Et c'est vrai que moi, j'ai une amie qui vient de Metz, et quand on dit la rue de Metz, à chaque fois, elle n'est pas très contente. Et quant à dire le gaz, ou par exemple le rubis, on parle beaucoup de rubis à Toulouse, on en parle aussi à Bordeaux, évidemment. Mais quand on parle de rubis à Toulouse, c'est que le groupe des deux consonnes gue et be, on a beaucoup de mal à le prononcer.
Oui. Mais par exemple, moi, dans mon enfance, je suis toulousain, j'ai plutôt entendu, quand on parlait d'un sandwich, vous voyez ?
Oui, le sandwich, évidemment, oui, tout à fait. C'est-à-dire en fait, qu'on a du mal à prononcer ces groupes, on va dire, un petit peu compliqués, alors pour le D et le W, c'est pas deux consonnes, mais ces groupes un peu compliqués, alors que les langues romanes ont une alternance consonne-voyelle qui est beaucoup plus fluide dans la prononciation.
Alain Dawson, sur le trait le plus typique des accents nordistes et picards ?
Mais on a beaucoup de choses hein, au niveau de la prononciation. Le plus typique, celui qui vous fait immédiatement identifier comme du Nord, c'est peut-être la prononciation du A. Hein, mm-hmm. On dit, pour dire un chat, par exemple, on va dire plutôt un chat. Donc mm-hmm. le A est plus fermé et prononcé plus à l'arrière. À l'inverse, on va dire un garçon, par exemple. Donc le A a une prononciation différente s'il est devant un R. Voilà, ça peut marquer assez nettement le fait qu'on est du Nord et de la Picardie. Après, il y en a d'autres. Hein, à l'inverse des parlés occitans, chez nous, tous les E dits muets, hein, E caduques. Disparaissent totalement, ça c'est vraiment une caractéristique. Et puis oui, nous aussi on dit une rose, hein, et non pas une rose. voilà, nous aussi on dit voilà, il y a des choses qu'on retrouve, c'est-à-dire que la prononciation des voyelles est assez marquée. Quant à la palatalisation affrication dont on parlait tout à l'heure, on la retrouve en particulier en Picardie proprement dite et autour de Lille et en Picard cette fois, pas vraiment quand on parle le français régional. Là, ça a plutôt disparu.
Médéric Gasquet-Cyrus, je rappelle que vous dirigez cette collection, hein, ça se dit comme ça. Quel est le trait le plus typique de l'accent breton? C'est peut-être l'assourdissement des consonnes en fin de phrase.
Ouais, c'est ça, parce que le gas, on va le dire aussi comme à Toulouse et comme à Marseille aussi. Donc, il y a beaucoup de traits qui sont partagés par les Français régionaux. Il y a une expression en breton pour dire que quelqu'un marche pas droit quand, par exemple, il est fatigué ou un peu trop bu. C'est à Dreus. Alors, ça s'écrit Dreus en breton, mais ça se prononce à Dreus. Et il y a aussi le fait d'enlever les E, hein, par exemple, pour dire comment ça va et comment que c'est, je dirais à Marseille. Mmh. Donc voilà, c'est aussi le deuxième trait.
Allez, il est 10h41, l'heure de retrouver les Français, mode d'emploi de Jean-Laurent
Gasset. Regarde, comment bien vous fasse.
C'est net, c'est silencieux, il n'y a pas de fumée, c'est un Français.
Ali Rébéi.
Tu peux pas faire la queue comme tout le monde. Abruti, crétin, cocu.
Sur France Inter.
C'est ça les Français.
On va couper la chic, les Français, mode d'emploi de Jean-Laurent Casselli. Alors aujourd'hui, pas de nourriture hein, au menu de votre chronique pour changer.
Oui, Ali, c'est vrai qu'il y a deux semaines, je parlais ici des tartinables. Et comme mardi prochain, le 13 mai, j'ai appris que c'était la journée mondiale du houmous. J'ai un peu hésité, j'avoue. Mais je vous rassure, je change un peu de perspective aujourd'hui. Pour une fois, je ne vais pas parler des Français eux-mêmes. En tout cas, pas directement. Je vais plutôt parler de ceux qui parlent des Français. Vous savez, les experts censés capter l'air du temps. Alors, et imaginons l'un d'eux, cher Ali, appelons-le Jean-Laurent C, jeune et fringant, auteur de 40 ans et des poussières. Imaginez qu'il reçoive un jour un SMS d'un conseiller du ministre Intel ou de la députée Tartempionne. Le conseiller commence par le flatter, ce à quoi les intellectuels sont très sensibles, et il lui propose une rencontre informelle pour discuter de l'état du pays. Une fois dans le bureau du responsable politique et non sans s'être vu proposer un café à dosette, le conseiller ouvre son petit carnet et le candidat lui demande « Alors cher ami, comment sentez-vous l'état de la France ?» Eh bien, cette scène, je l'ai vécue tout récemment et je me suis demandé ce que je faisais là, quelle était ma légitimité pour parler des Français à leur place. Pour le dire autrement, je me suis demandé si quand on entrait dans les radars des politiques et des médias, on était encore à portée des gens dont on était censé parler. Au-delà de l'anecdote dans les coulisses du pouvoir intellectuel et médiatique, je pense qu'il faut interroger cette obsession qu'ont les médias et les responsables politiques, surtout à 2 ans d'une présidentielle, cette obsession pour les capteurs qui, soi-disant, les aideraient à comprendre l'état de l'opinion. Capteurs, radars, antennes, il y a tout un champ lexical, d'ailleurs souvent teinté de techniques militaires ou industrielles, qui tournent autour de la détection, du repérage, de la remontée de terrain. Par exemple, la recherche permanente de signaux plus ou moins faibles en fonction de l'intensité du phénomène.
Alors, quels sont les capteurs qui fonctionnent le mieux pour détecter l'évolution de la société?
On a du radar, effectivement, à plus ou moins haute fréquence, en marge des sondages classiques. Certains ne jurent que par les capteurs humains pour prendre le pouls de l'opinion. Les salons de coiffure, les chauffeurs de taxi, les gardiennes d'immeubles. Mais rien ne vaut, évidemment, les déplacements sur le terrain, dans les cafés, sur les marchés, dans les brocantes. Par exemple, Rémi Branco, élu socialiste dans le Lot, raconte dans son livre « Loin des villes, loin du cœur » qu'il pratique le porte-à-porte dans son canton, ce qui lui permet de rencontrer des habitants différents de ceux qu'il croise dans le monde associatif et militant. Alors, il arrive parfois que les radars soient cassés, que les détecteurs soient un peu encrassés. Illustration, les panneaux de signalisation renversés qu'on voit, vous savez, à l'entrée et à la sortie des villages français, ce mouvement a touché jusqu'à 10 000 communes en octobre 2023. Et ces panneaux renversés, ils envoyaient le message selon lequel on marchait sur la tête et ils étaient annonciateurs du mouvement de colère des agriculteurs agriculteurs de janvier 2024. Or, plusieurs experts à qui j'en ai parlé ces derniers jours ont admis que c'était lors d'un déplacement en voiture en Bourgogne ou dans les Vosges qu'ils avaient pris conscience du phénomène assez tardivement. Donc, c'est un peu le syndrome du Parisien qui découvre la vie extramuros pendant les ponts du mois de mai. D'ailleurs, j'ai remarqué un phénomène étrange ces dernières années au sein des élites culturelles, celles donc qui décrivent la vie des Français. Tout le monde a désormais conscience de cette difficulté à capter les signaux faibles. Je croise de plus en plus de gens qui commencent par regretter d'être tellement hors sol, déconnectés, éloignés des vrais problèmes des gens. En somme, nous savons que nous ne savons pas, et c'est déjà pas mal. Cette volonté de reconnexion a d'ailleurs donné lieu à un genre éditorial à part entière qui rejaillit avant chaque présidentielle, le tour de France de ceci ou de cela, entamé par un expert qui veut comprendre les gens et partir à leur rencontre. En tout cas, Ali, s'il faut entamer un tour de France des fromages préférés des Français, ou mieux, un tour de France des tartinables, eh bien vous pourrez compter sur moi, je nettoie mes capteurs et je me mets en route de ce pas.
Et je suis partant, je pars avec vous, mon cher Jean-Laurent Casselli, les Français mode d'emploi. Jean-Laurent Casselli, fondateur de Maison Casselli et co-auteur d'un ouvrage indispensable pour comprendre notre pays, justement, la France sous nos yeux. Médéric Gasquet-Cyrus.
J'ai entendu, il a dit un petit voiture. C'est très léger, mais c'est ressorti quand même.
Ali Rebéi.
Comment on appelle ça chez vous ?
Une vitre, un carreau.
Ça, c'est une pile.
Un évier.
Grand bien vous fasse.
Ah, faire un péniqué.
Me faire la sieste. Dormir.
Faire un péniqué.
Faire un péniqué, ça, c'est quoi ça ?
T'es de quel pays ? Du Sud.
Sur France Inter.
Et ce matin, on s'intéresse aux Français tels qu'on le parle à Toulouse, Marseille, Lille, Brest ou encore Strasbourg. Et nous recevons une avalanche de messages ce matin. Lisa qui nous dit « Particularité de la langue française dans les Hautes-Alpes. Quand une destination est très loin, on dit que c'est à Chailles. Et quand c'est très très loin, on dit que c'est à Chailles-les-Bains. Francesca, en Lorraine et en Alsace, le pain au raisin s'appelle un schneck et le sachet plastique un cornet, ce qui me vaut encore quelques moqueries, Pascal Erard, vous confirmez ?
Alors, la schneck ou la schnack, effectivement. Par contre, le cornet, j'avoue que là, moi, j'ai pas d'éléments là-dessus. Moi, j'ai jamais entendu ça.
Vous dites plutôt pochon, peut-être ?
Ah non, on dit dites... un sachet.
Un sachet. Philippe, l'expression topette qui veut dire au revoir en Anjou est assez fréquente. Marie-Pierre, tiens, j'aime beaucoup ce message. Il y a des expressions vendéennes que je trouve très satisfaisantes. On dit d'une personne qu'elle est inserviable quand elle est insupportable. C'est très parlant, ça, inserviable. Sébastien qui nous dit dans ma région d'origine, le sud de la Champagne, on utilise l'adjectif peu ou au féminin peut qui signifie moche, désagréable. Voilà, c'est quelques exemples. Et c'est une avalanche que l'on reçoit. Tiens, Marjorie, dans ma famille originaire d'Amiens, on a toujours dit qu'elle enchepait quand on fait quelque chose de travers. Voilà. Qu'est-ce que ça dit, cette avalanche, Médéric Gasquet-Cyrus, vous dirigez la collection Ça se dit comme ça. C'est vraiment une avalanche, là.
C'est ça dit que les gens sont intéressés par la langue, que toutes ces questions-là, qui sont passionnés par ça, et que la langue est dynamique. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, ce n'est pas que les langues régionales qui sont dans ce français, c'est aussi des créations en français, c'est de la syntaxe du français.
Mathieu qui nous dit, n'oubliez pas les Outre-mer. Mamina, le créole antillais est-il compris dans votre débat ?
Alors, c'est le début d'une collection aux éditions Le Robert. On a 5 ouvrages pour l'instant et il y en a d'autres qui sont prévus. Donc évidemment, on va essayer au fur et à mesure, je ne sais pas combien de temps ça va durer, 5 ans, 10 ans, 30 ans de collection, on verra, mais on va essayer de tout couvrir.
Et il y aura le basque, on a beaucoup de questions sur le basque.
Alors vous avez déclaré, dire à quelqu'un qu'il a un accent, c'est du racisme.
Oui, monsieur.
Bien sûr, parce que c'est une forme de...
Donc vous n'avez pas d'accent, hein, je vous le dis tout de suite.
Non, j'en ai pas. C'est vous qui en avez un, parce qu'on a toujours un accent.
Ouais. Par rapport au départ, j'en avais un, oui.
On enferme les gens dans une catégorie. Voilà. Ouais. Moi, quand j'étais au début à la radio France Inter, je parlais de journalisme politique, je recevais du courrier, des gens courroucés. Mais la météo ou le rugby, c'est bien pour vous. Ouais. La politique, enfin, vous n'allez pas toucher à la politique avec votre accent.
Jean-Michel Apathy, dans l'émission Salut les Terriens, Médéric Gasquet-Cyrus, les accents peuvent être source de moquerie, de mépris, de racisme social, de snobisme. Anna qui nous dit, lors d'une formation professionnelle, on était amené à faire des jeux de rôle. Quand j'ai pris la parole à mon tour, tout le monde a éclaté de rire à cause de mon accent plouc issu de la Haute-Loire. J'étais mortifié.
Oui, c'est un phénomène qui existe encore et on peut avoir plein de discriminations.
On parle de glottophobie.
Ouais, la glottophobie qui a été développée par le linguiste Philippe Blanchet notamment. On est plusieurs à travailler sur ce sujet. On a des centaines, des milliers de témoignages sur le sujet. Alors, c'est pas la plus grosse discrimination en France, on est d'accord qu'il y en a des plus graves, je dirais. Mais quand ça touche le professionnel notamment, c'est-à-dire prise de parole en public, concours de recrutement, formation aux médias. Moi, j'ai travaillé sur les écoles de journalisme. Il y a encore ce formatage qui peut être soit fait par des gens qui disent ne parle pas comme ça ou comme le dit Jean-Michel Apathy, tu feras les sports, la météo, le rugby. Ou alors c'est de l'autocensure, c'est ce qu'on appelle l'insécurité linguistique. À force d'entendre des gens autour de nous parler, entre guillemets, normalement, c'est-à-dire avec ce français nivelé, on se dit, si je dis la rose, si je dis le président de la République, ça va marquer mal, comme on dit à Marseille, donc je veux dire le président de la République.
Au début, moi, des auditeurs me reprochaient de dire rose, jaune, d'avoir ces hauts ouverts, et je recevais des courriers en me disant, on ne parle pas comme ça.
Mais oui, on parle comme ça, ça se dit comme ça, y compris à la radio, il faudrait que ça s'impose maintenant.
Pascal Erhardt.
Oui, en fait, tout ça, ça confirme bien que c'est pas les langues qui ont une valeur, les langues en soi n'ont pas de valeur, mais on leur attribue des valeurs sociales. Et quand on ne respecte pas la langue des gens, on ne respecte pas les gens qui les parlent. Et c'est ça, le fondement de nos travaux en sociolinguistique, c'est de montrer que la langue, ce n'est pas seulement un instrument de communication, c'est un instrument de pouvoir. Et là, ça se manifeste très bien dans ce type de rapport et de remarques.
Médéric Gasquet-Cyrus, des accents régionaux, des intonations qui sont parfois volontairement gommées dans certaines professions, pour ne pas être discriminé ou moqué.
Oui, et encore une fois, on a vraiment des témoignages très forts de personnes qui disent, j'ai été au CAPES ou à la GREG, on m'a dit, mais vous n'envisagez pas d'enseigner le français avec cet accent-là. Vous vous rendez compte comme c'est terrible? Ou des gens à qui on dit, et encore une fois dans les médias, vous ne ferez jamais de la radio. Nous, on aime la radio, on est là parce qu'on aime ça, et c'est la voix, la radio. Vous ne ferez jamais de la radio avec un accent comme ça, c'est terrible.
Et certains sont donc contraints d'employer un parler neutre issu des élites parisiennes.
C'est ça, et ça génère encore plus de fautes, entre guillemets, parce que la personne qui va se contrôler, qui va se surveiller, elle va être en permanence en stress, et donc elle va avoir un parler qui est pas tout à fait naturel ni maîtrisé, et il faut des années peut-être avant de parler comme ça.
Le français neutre, sans accent, c'est un mythe ?
Non, il y a un français neutralisé, je dirais, c'est-à-dire que c'est ce qu'on entend beaucoup sur cette radio, sur d'autres médias, qu'on entend à l'université, c'est-à-dire que c'est un français qui ne marque pas, qui ne montre pas des origines ni sociales ni géographiques. Ça ne veut pas dire que les gens, quand ils sortent du studio ou du cours, ne se remettent pas à prendre certains traits. Et on le fait parfois inconsciemment. Moi, je parle peut-être là de manière un peu plus pointue que ce que je fais quand je suis au stade, à l'apéro, avec, avec les collègues. Mais c'est quelque chose, effectivement, qui est de l'ordre du contrôle social, parce que c'est une mise en scène aussi la parole, mais c'est pas un accent, il y a plein d'autres accents.
Pierre Escudé, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit à quelqu'un qu'il a un accent ?
Ça veut dire qu'on estime qu'il est différent de soi et que soi, on est légitimement le centre de du vrai. En fait, l'accent, c'est la musique d'une langue. Le principal, c'est ce que l'on dit. C'est la qualité des choses que l'on dit, la véracité des choses que l'on dit. Il y a un linguiste italien qui a été pendant quelques mois ministre de l'éducation nationale en Italie avant la vague Berlusconi et qui avait fait un programme scolaire dans lequel, en fait, le plus important n'était pas la normalisation de la langue, le bien parler, le bon usage ou le mauvais usage, donc chasser le mauvais pour ne garder que le bon, mais c'était ce qu'il appelait la capacité d'excursion, la capacité, en fait, de pouvoir parler en fonction de contexte, en fonction de registre, en fonction de moments de langue, et la capacité de savoir que l'on peut sortir de son registre pour en acquérir d'autres, et ne pas laisser les personnes dans tel ou tel registre.
Mais
pour les uns, ce serait le mauvais registre, et pour les autres, ce serait le grand et le seul vrai registre. Donc la réalité linguistique, c'est cette capacité d'excursion, de savoir que l'on peut dire la même chose dans beaucoup de façons différentes, et de connaître ces différentes façons en fonction de ce qu'on appelle la pragmatique de la langue, en fonction de l'intérêt de la communication que l'on aura à dire.
Médéric Gasquet-Cyrus, on a presque l'impression que juger un accent, c'est juger la personne.
C'est ça, et c'est ce qu'a dit Pascal Erhardt, c'est-à-dire qu'effectivement, on croit que c'est juste une surface, que c'est juste rigolo, des phonèmes, etc. Mais en fait, les personnes peuvent le prendre mal parce que c'est elles, c'est leur identité sociale, personnelle, affective, donc c'est violent.
Ça vous agace quand on vous dit « Ah, j'adore l'accent marseillais, ça sent le soleil ».
Non, alors ça ne m'agace pas, parce qu'on a le droit d'être maladroit, on a le droit de vouloir faire plaisir, mais quand c'est tout le temps la même chose, le ping, c'est bon.
Allez, pour terminer, je vais vous demander les uns les autres un ou deux mots que vous affectionnez issus de vos livres respectifs. Alain Dawson, vous êtes le co-auteur de Dans le Nord et la Picardie, ça se dit comme ça, un ou deux mots que vous aimez bien ou expressions ?
Oui, je peux vous citer par exemple les mots en W, ça c'est génial parce que ça fait vraiment du Nord ça quand c'est en W. Hein, donc on a par exemple la Wassing hein, qui est chez nous la serpillière. Alors pas dans toute la région, hein, mais une bonne partie de la région on dit une Wassing plutôt qu'une serpillière. Et puis il y a les Watring. Alors ça désigne une réalité géographique locale, hein, plutôt du côté de dans les Flandres, hein, du côté de Dunkerque. C'est les canaux de d'irrigation plutôt pour drainer le terrain, puisqu'on est sur une zone de polder, les Watringues.
Pascal Erhardt.
Alors, moi, il y a tous les mots, je suis une grande gourmande, et donc tous les mots issus de la gastronomie, hein, puisqu'il y a énormément de mots alsaciens qui sont entrés dans le lexique courant. Alors, je sais que Médéric, il attend le flammekuch, mais
la
fameuse tarte flambée, mais moi, j'adore les Schnitzerspatzle. C'est une préparation typiquement alsacienne, assez peu connue, et en fait, on confond souvent les spatzle, en fait, qui sont les chutes de tissu du tailleur, de Schnitzer, et donc c'est alors une sorte de lasagne. Alors c'est plus complexe que ça, c'est des morceaux de pâte à nouilles, agrémentés d'oignons frits, etc.
Redites le nom.
Schnitzerspatzle. Et on confond souvent avec les Spatzle ou les Spätzle, qui sont des accompagnements typiques quand vous allez dans un restaurant alsacien, on va vous demander des frites ou Spätzle.
Médéric Gasquet-Cyrus.
Pechkin. Alors Pechkin, c'est un mot que j'ai entendu créer sous mes oreilles. C'est un mélange de pecher, qui est le pecher au provençal, qui veut dire le pauvre, la pauvre, et de miskin, qui vient de l'arabe et qui veut dire le pauvre, pareil. Et voilà, ça montre que c'est dynamique ce français.
Tiens, on termine avec vous, Raphaël. On a une poignée de secondes. Bienvenue, Raphaël. On termine avec votre témoignage sur les accents.
Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir d'entendre des accents, en tout cas. Moi, je viens de Toulouse. Enfin, mon accent, il est plutôt du Gers à côté. Et j'ai fait l'école de Marseille de journalisme. Et je me souviens, c'était il y a quelques années, donc il y a plein de profs de journalistes qui disaient que c'était bien d'avoir un accent pour que le journaliste ait sa personnalité. Mais je me souviens aussi d'une journaliste qui présentait un journal local qui m'avait dit que l'accent c'était aussi, que mon accent c'était un signe de sous-culture, et je me souviens que ça m'avait pas mal marqué, mais bon, je suis toujours dans le milieu, donc comme quoi on peut y arriver même avec un accent, et je travaille dans ma région d'origine, toulousaine, et à Canal+, au rugby aussi. Donc bon, comme quoi, ils avaient peut-être raison sur certains trucs, mais c'est ma culture aussi, et j'en suis fière.
Et vous avez bien raison. Et moi aussi, à l'Institut pratique de journalisme, à l'époque, il y a 25 ans, m'avait demandé de gommer mon accent. Donc voilà, c'est encore très prégnant, Médéric.
Oui, c'est encore prégnant, il faut que ça s'arrête, et cette collection est destinée aussi à dire « baste ».
Merci beaucoup, Pascal Erhardt. Vous êtes l'autrice d'En Alsace, ça se dit comme ça. Alain Dawson, Dans le Nord et la Picardie, ça se dit comme ça. Médéric Gasquet-Cyrus, à Marseille, ça se dit comme ça. Et Pierre Escudé, à Toulouse, ça se dit comme ça. C'est publié aux éditions Le Robert.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.